la rive.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui du 8 décembre 2020. Eric Manelakis dans votre compagnie. D'abord le sommaire. À l'RDC, la police s'est déployée à l'intérieur du Parlement à Kinshasa après deux nouvelles violences entre des partisans de Félix Tshisekedi et ceux de Joseph Kabila. Au Sénégal, trois pères ont été condamnés pour avoir fait embarquer leurs enfants dans des pirogues pour aller clandestinement vers l'Europe. Le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a choisi l'ancien général Lloyd Austin pour diriger le ministère de la Défense. S'il est confirmé, il sera le premier Africain-Américain chef du Pentagone. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, juste après le journal. Le Ghana attend dans le calme les résultats de la présidentielle. Le scrutin s'annonce serré entre le président Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat pour le nouveau parti patriotique qui brigue un second mandat, et son prédécesseur John Mahama, 62 ans, leader de l'opposition du Congrès national démocratique. À la veille des élections, les autorités avaient annoncé que les résultats pourraient être connus moins de 24 heures après la fin du vote, soit avant 17 heures en temps universel aujourd'hui. Environ 2,5 millions de Libériens se sont rendus aux urnes aujourd'hui. Ils sont appelés à approuver ou non, oui, amendement à la Constitution proposé par le président George Weah de réduire notamment la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans et d'autoriser la double nationalité. Le mandat des députés passerait également de 6 à 5 ans, celui des sénateurs de 9 à 7 ans. Le référendum est couplé avec des élections pour renouveler la moitié des 30 sièges de sénateurs. Les premiers résultats sont attendus avant la fin de la semaine. La police congolaise s'est déployée mardi matin à l'intérieur du siège du Parlement à Kinshasa après de nouvelles violences dans l'enceinte du bâtiment. Au moins une personne a été blessée. Des précisions avec Abdelrahman Dia.
Le Palais du Peuple a été pour la deuxième journée consécutive le théâtre de nouveaux affrontements entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. À l'extérieur, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser d'autres partisans du président Tshisekedi qui voulaient entrer également dans l'enceinte du Parlement. Hier, des députés pro-Tshisekedi avaient saccagé des pupitres à la tribune de la salle des séances pour empêcher la tenue d'une plénière. Cette montée de tension intervient au lendemain d'un discours du président Tshisekedi qui a annoncé la fin de la coalition qu'il formait depuis janvier 2019 avec la majorité parlementaire pro-Kabila. Le chef de l'État a demandé la recherche d'une nouvelle majorité à l'Assemblée, faute de quoi il dissoudrait la Chambre basse. Il a annoncé la prochaine nomination d'une personnalité pour identifier cette nouvelle majorité. Le FCC a dénoncé une violation de la Constitution.
Les élections régionales de dimanche au Cameroun se sont déroulées dans le calme, malgré les menaces des groupes séparatistes et l'assassinat d'un conseiller municipal en zone anglophone, a assuré aujourd'hui le gouvernement. La victime appartenant au RDPC, parti du président Paul Biya, ces conseils régionaux oubliés depuis 1996 ont été remis au goût du jour lors d'un grand dialogue national convoqué en 2019 par Paul Biya pour mettre fin au conflit en zone anglophone. Un tribunal sénégalais a condamné aujourd'hui à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme, 3 pères de famille qui avaient fait embarquer leur fils dans une pirogue en partance pour l'Europe, dont l'un est mort en mer. Le point avec Michel Joseph.
Maître Hassan Dioma Ndiaye, avocat de l'État, dit qu'ils ont été condamnés pour mise en danger de la vie d'autrui par le tribunal de grande instance de Mbour, un important port de pêche au sud-est de Dakar. Les 3 prévenus sont tous des pêcheurs. Ils étaient incarcérés depuis leur arrestation début novembre. La mort de l'un des adolescents avait suscité beaucoup d'émoi dans le pays et sa photo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Le jeune homme d'une 15aine d'années avait embarqué à la mi-octobre dans une pirogue. Son père avait payé 250 000 francs CFA à un passeur qui devait l'emmener clandestinement en Espagne. Sa destination finale devait être l'Italie, mais il a succombé pendant la traversée. Les enfants des deux autres pères ont survécu. L'émigration clandestine et les pertes humaines qu'elle cause suscitent toujours une vive émotion au Sénégal.
Les autorités éthiopiennes ont admis que des forces pro-gouvernementales avaient ouvert le feu dimanche sur une équipe de l'ONU au Tigré. Addis Abeba, qui a annoncé le 28 novembre la prise de la capitale régionale Mekele, a réaffirmé hier que la phase active de l'opération militaire lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed est terminée. La crise humanitaire dans la région éthiopienne du Tigré, où la situation sécuritaire empêche de venir au secours des populations, est de plus en plus critique, a averti aujourd'hui le porte-parole du HCR, Babar Balok. Il a souligné que l'organisation n'avait eu accès aux quelque 96 000 réfugiés érythréens installés au Tigré. Des combattants djihadistes ont attaqué hier soir un village du nord du Mozambique à proximité d'installations gazières. Les violences se sont prolongées pendant la nuit, les djihadistes mettant le feu à des dizaines de maisons. Cette récente attaque nourrit les inquiétudes des investisseurs étrangers en vue de l'exploration gazière. L'armée égyptienne a annoncé aujourd'hui avoir éliminé 40 djihadistes présumés et que 7 militaires ont été tués ou blessés depuis septembre dans le nord du Sinaï Est, en proie de longue date à une insurrection islamiste. Ces opérations ont également abouti à l'arrestation de 12 autres combattants extrémistes présumés. En Tunisie, des milliers de médecins, d'infirmiers et d'employés de la santé publique en grève depuis lundi ont manifesté aujourd'hui à Tunis pour exprimer leur colère face aux infrastructures défaillantes dans ce secteur en difficulté depuis des années. Longtemps considéré comme un secteur stratégique, la santé publique est délaissée depuis une vingtaine d'années au profit du privé et souffre de problèmes de gestion et de corruption.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a choisi l'ancien général Lloyd Austin pour diriger le ministère de la Défense. Il deviendrait, s'il était confirmé par le Sénat, le premier chef afro-américain du Pentagone. Les précisions de Bagassikoura.
Le général de l'armée de terre à la retraite, âgé de 67 ans, a combattu en Irak et en Afghanistan avant de devenir le premier homme de couleur à diriger le CENTCOM, le commandement central de l'armée américaine. Joe Biden connaît l'ex-général Austin pour avoir travaillé avec lui lorsque, en tant que vice-président, il avait supervisé la mise en œuvre de la décision de Barack Obama de retirer 50 000 soldats américains d'Irak en 2011. S'il est approuvé par le Sénat, l'ex-général sera le premier Africain-Américain à diriger la première armée du monde au sein de laquelle la communauté noire est très représentée. L'ancien commandant des forces américaines au Moyen-Orient semble ainsi avoir été préféré à Michelle Flournoy, qui aurait pu être la première femme à diriger le Pentagone. Lloyd Austin avait succédé à la tête du CENTCOM à Jim Mattis, qui a été le ministre de la Défense de Donald Trump de 2017 à 2019.
L'armée américaine en Afghanistan a rejeté aujourd'hui ce qu'elle a décrit comme une étude partielle sur la hausse du nombre des victimes civiles causées par les frappes aériennes de la coalition entre 2016 et 2019. Le coronavirus a fait plus de 1 540 000 morts dans le monde. Quelques 67,5 millions de cas d'infection ont été enregistrés. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 avec Nathalie Barge.
Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 280 000 décès pour environ 14 950 000 cas recensés. Plus de 20 millions de personnes dans le sud de la Californie sont soumises à un confinement. Sur la côte est, New York a rouvert les écoles élémentaires publiques lundi, mais les autorités pourraient décider d'une nouvelle fermeture des restaurants. Les experts de l'Agence américaine des médicaments estiment que le vaccin Pfizer-BioNTech ne présente pas de risque de sécurité, empêchant son autorisation qui pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 61 500 morts, a commencé à vacciner les résidents et le personnel des maisons de retraite. La majorité de la population devra toutefois attendre 2021, car la priorité sera donnée ensuite au personnel soignant et aux plus de 80 ans. 51 vaccins sont testés sur des humains, 13 étant en dernière phase d'essai, indique l'Organisation mondiale de la santé, estimant que la vaccination ne doit pas être obligatoire, sauf dans des circonstances professionnelles spécifiques.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Nathalie Barge pour la Minute Éco.
En République démocratique du Congo, la loi des finances de l'exercice 2021 sera examinée à partir de mercredi au Sénat en seconde lecture, après son adoption par l'Assemblée nationale le 3 décembre. Chiffré à quelque 6,9 milliards de dollars, le budget a été présenté le 14 novembre par le gouvernement. En cas de vote en des termes identiques, le texte sera transmis au président pour promulgation. En cas de divergence, une commission paritaire sera créée pour harmoniser les vues. Le Sénégal a établi un plan pour parachever la réforme sur les contrats de partenariat public-privé dans le cadre du programme d'action prioritaire ajusté et accéléré. Certains points ont été présentés aux parlementaires à l'issue d'une séance plénière lundi consacrée au vote du budget 2021. Le ministre de l'économie, Amadou Hoth, a précisé qu'en moyenne sur 100 entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de francs CFA, 26 sont contrôlées par les privés internationaux. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a rebondi de 66% au troisième trimestre 2020, après s'être effondré à 51% au cours du précédent, a annoncé ce mardi l'Agence nationale des statistiques. Ce rebond est en grande partie le résultat de l'allègement des restrictions liées au confinement dû à la pandémie de Covid-19, a estimé l'agence, précisant que la fabrication, le commerce et l'exploitation minière ont été les principaux moteurs de cette croissance.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous, c'est le choc de ce soir. Les meilleurs ennemis, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ont l'occasion de se retrouver pour la première fois en Ligue des Champions depuis que CR7 a quitté le Real Madrid. Un test positif au Covid-19 avait empêché la superstar portugaise de prendre part au match aller à Turin, remporté 2-0 par les Blaugrana. En bas, le Dynamo Kiev reçoit Ferencváros pour la troisième place qualificative pour la Ligue Europa. Les Red Devils de Manchester United jouent leur place en huitième de finale à Leipzig. Un nul qualifie Man U et une défaite les envoie en Ligue Europa. Le PSG reçoit le Başakşehir Istanbul qui joue pour l'honneur. Les deux néophytes en Ligue des Champions, Krasnodar et Rennes, terminent l'aventure avec un match pour l'honneur dans ce groupe. Les Russes, troisième et reversés en Ligue Europa, vont défier le leader Chelsea, de l'énorme gardien sénégalais Edouard Mendy et de l'ailier marocain Hakim Ziyech. Les Français reçoivent, eux, Séville. À suivre aussi Zénith Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund et Lazio de Rome, FC Bruges. Ici aux États-Unis, les Seattle Sounders défendront leur titre en finale de la MLS face à Columbus dimanche. Après avoir défait hier Minnesota United 3-2 en finale de la conférence Ouest, un but de la tête de l'international suédois Gustav Svensson sur corner dans le temps additionnel a propulsé Seattle vers sa quatrième finale de MLS en 5 saisons. La franchise de l'État de Washington, en quête d'un troisième sacre, rejoint ici le Crew de Columbus en finale. Le Crew, justement champion en 2008, disputera lui sa troisième finale de MLS dans son propre stade dans l'Ohio dimanche. Le comité international olympique a suspendu le président biélorusse Alexandre Loukachenko de toutes les manifestations et activités du CIO, y compris les Jeux olympiques, à cause de la discrimination politique frappant les athlètes du pays. Dès la fin août, plus de 300 sportifs de haut niveau, dont plusieurs médailles olympiques et membres d'équipes nationales, ont dénoncé dans une lettre ouverte le trucage des votes dans l'élection présidentielle revendiquée par M. Loukachenko. La commission exécutive du CIO a conclu que, je cite, « la direction actuelle du Comité national olympique du Bélarus, présidée par le chef de l'État, Alexandre Loukachenko, n'a pas protégé de manière appropriée les athlètes contre ces discriminations politiques. »
C'était des sports de Yacouba Ouedraogo. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La RDC s'enfonce dans une crise au sommet de l'État. Le président Tshisekedi a annoncé dimanche la fin de la coalition qu'il formait avec la majorité parlementaire pro-Kabila du Front commun pour le Congo. Le chef de l'État a menacé de dissoudre la Chambre basse. Le FCC a dénoncé une violation de la Constitution. Eddie Isango a joint à Kinshasa un député membre du groupe parlementaire PPRD de Kabila et porte-parole du parti, François Nzekouye.
Le règlement de l'Assemblée nationale dispose que les plénières de l'Assemblée nationale sont convoquées par les bureaux de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le bureau a convoqué une plénière pour 10 heures, mais de manière anarchique, les députés de l'UDPS, qui ont séquestré du reste du secrétaire général depuis samedi, l'ont obligé à convoquer une autre plénière. Cela n'a pas pu se passer et au moment où je vous parle, les députés de l'UDPS viennent de faire un coup d'État institutionnel à l'Assemblée nationale en convoquant eux-mêmes une plénière cet après-midi qui serait dirigée par les députés les plus âgés et les moins âgés sans tenir compte du quorum des sièges. Pour qu'une plénière se tienne, il faut au moins 250 députés plus une personne. Dans la salle, actuellement, il y a 50 députés et on convoque et on veut tenir une plénière de l'Assemblée nationale.
Ben, il y a eu un communiqué que VOA a vu portant la signature du secrétaire général de l'Assemblée nationale convoquant la plénière après celui de la présidente qui disait que toute séance était suspendue à cause des troubles d'hier.
Le secrétaire général n'a pas compétence de convoquer une plénière à l'Assemblée nationale. La seule plénière qu'il convoque est la séance inaugurale d'ouverture d'une session parlementaire. Au début d'un mandat, il a le droit de convoquer une plénière. En dehors de ce moment, aucune disposition, ni de la Constitution, ni du règlement de l'Assemblée nationale, ne lui permet de convoquer une plénière.
Ceux du camp du CASH ou de ceux qui les ont rejoints disent avoir mis des signatures sur une pétition et qu'ils seraient au nombre de plus de 250. Ils vous accusent, vous, du FCC-PPRD, d'empêcher que la séance ne soit tenue et même d'empêcher que les services ne puissent recevoir cette pétition.
C'est faux parce qu'aujourd'hui, la plénière a été convoquée par les rapporteurs de l'Assemblée nationale à 10h et vous devez en avoir une copie. Donc, le bureau est prêt que toutes les plénières se fassent conformément à la Constitution, au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fait office de loi particulière pour les parlementaires. Donc, nous ne sommes à aucune fois opposés, sauf que les samedis, les jours où ils sont venus déposer la pétition, ils sont arrivés à 13h30, à l'heure où l'administration était déjà fermée.
Dans tout ça, vous ne craignez pas que le président prenne une décision pour dissoudre l'Assemblée nationale?
Il le fera encore une fois en marge des lois et de la Constitution. Notre Constitution dit que le président public peut dissoudre l'Assemblée nationale s'il y a un conflit persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Donnez-moi un seul exemple de conflit entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il n'en existe pas. Les conflits éventuels qu'il peut avoir, lui, avec les membres de son gouvernement, il confond le problème d'humeur qu'il peut avoir, lui, avec le président des chambres, mais cela ne constitue à rien une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.
François Nzekouye, député membre du groupe parlementaire PPRD de Kabila.
Abdourahmane Dia avec vous.
Dans Washington Forum cette semaine, Félix Tshisekedi rompt avec le FCC de Joseph Kabila et veut une recomposition de la majorité parlementaire avec la nomination d'un nouvel informateur. Une décision qu'il a prise à l'issue des consultations politiques lancées le mois dernier. Les alliés de l'ex-président, toujours majoritaire au Parlement, disent avoir pris acte. Quelles sont les options du président Tshisekedi pour obtenir une majorité parlementaire? Quelles conséquences politiques de ce bras de fer FCC cache? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 10 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
La capitale sénégalaise accueille la 3e édition du Festival international de courts-métrages du 7 au 12 décembre. Cette année, Dakar Courts-métrages a reçu 213 candidatures en provenance d'Afrique et de la diaspora. Le comité de sélection a retenu les 12 courts-métrages pour la compétition officielle qui se tient dans un contexte de deuxième vague du Covid-19. Yacouba Ouedraogo a joint Molly Khan, directeur du Festival Dakar Court-Métrage.
Nous avons pensé à mettre en place une plateforme pour permettre aux festivaliers qui ne pourraient pas se déplacer ou qui sont en dehors du Sénégal de pouvoir se connecter sur dakarcourt.equino.tv et de suivre tout le festival, non seulement en live, mais aussi de pouvoir visionner le catalogue numérique du festival. C'est-à-dire tous les films en compétition qu'on va voir, nous, qui sont les professionnels limités. Quand je parle de limités, je parle que le festival cette année est limité. Il n'y a que des professionnels que nous avons choisi qui seront là durant tout le festival. Et ils ont subi des tests Covid avant de quitter leur pays lorsqu'ils sont arrivés au Sénégal pour qu'on soit vraiment tranquille et que la fête commence bien et termine bien.
Parlant du festival, il y a eu quand même 213 candidatures. Vous êtes parvenu à sélectionner 12 films de court-métrage. Dites-nous comment le travail s'est fait.
Effectivement, nous avons reçu plus de 213 films qui nous viennent d'Afrique, de la diaspora américaine et européenne, du monde entier en général. Et nous avons en premier lieu mis en place un comité de visionnage composé de professionnels du cinéma. Et ces gens-là avaient fusionné, ils avaient envoyé 32 films. Après, nous, en interne, nous avons mis encore une deuxième équipe pour sortir une sélection. Et nous avons sélectionné ces 12 films-là qui nous viennent du Brésil, de l'île Maurice, du Mali, du Burkina Faso, du Maroc, du Sénégal. Dans ces 12 films, on peut voir vraiment des histoires diverses, des combats de femmes, de l'immigration et des films fantastiques.
Quel est l'objectif de Dakar Court-Métrage?
En Afrique, avec le numérique, les jeunes tournent des films, tout le temps des films. Et dans ces films-là, dans ces productions-là, on voit souvent des choses extraordinaires, des talents. Et qu'en général, ces films, on ne les voit pas. Nous avons décidé de mettre en place un festival de classe pour pouvoir permettre aux professionnels du cinéma, aux jeunes, de pouvoir montrer leurs films et aussi d'inviter des professionnels qui sont dans les autres pays développer, de venir en Afrique et de partager avec ceux qui sont là des expériences.
Molly Khan, directeur du Festival Dakar Court-Métrage, joint dans la capitale sénégalaise.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les préparatifs sont en cours pour la prestation de serment de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis. Une cérémonie qui sera toute particulière à cause de l'impact de la pandémie. Steve Reddish de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Lunanira Gahima.
Une plateforme construite sur les marches du Capitole et un podium dressé devant la Maison Blanche, ce sont les indices familiers d'une cérémonie d'investiture tous les 4 ans d'un nouveau président des États-Unis. Un journaliste interpelle Joe Biden.
Thank you, Mr. President.
Monsieur le Président élu, beaucoup de gens se demandent à quoi va ressembler votre prestation de serment.
So am I.
Moi aussi.
Joe Biden n'est pas le seul à se demander comment la pandémie de coronavirus va affecter les festivités pour sa prestation de serment. Lara Brown, directrice de l'école de sciences politiques à l'université George Washington.
There is nothing that will inhibit.
Rien n'empêchera le président élu, Joe Biden, de prêter serment, de prononcer un discours et d'avoir quelques dignitaires autour de lui à l'extérieur, c'est-à-dire la façade ouest du Capitole.
that is the west front of the Capitol.
Selon elle, la plupart des Américains suivent la cérémonie à la télévision et ne feront pas la différence une fois que le public ne sera plus dans l'objectif des caméras. Tara Brown, directrice de l'École des sciences politiques à l'Université George Washington.
I think what you are more likely to see are
Je pense qu'on pourrait voir des chaises espacées, peut-être avec de vrais billets pour accéder à l'espace et un moyen de s'assurer que les gens sont en sécurité, même s'ils sont à l'extérieur. J'imagine aussi que les masques seront obligatoires.
La Constitution des États-Unis prescrit ce qui est dit lors de la prestation des serments et quand elle a lieu. Joe Biden admet qu'il n'y aura pas des fioritures habituelles à son investiture.
Je suppose qu'il n'y aura probablement pas le gigantesque défilé inaugural sur Pennsylvania Avenue, mais je suppose que vous verrez beaucoup d'activités virtuelles dans les États, engageant encore plus de gens qu'auparavant.
Laura Brown dit que la taille de la foule ne sera pas un problème. Selon elle, nous n'allons pas voir un grand nombre d'Américains entassés dans les rues et agiter le drapeau avec le grand défilé. Ce sera plutôt un moment solennel de substance, d'austérité et de détermination. Biden a estimé que son équipe était plus imaginative à cause du COVID-19.
D'abord et avant tout, mon objectif est de garder l'Amérique en sécurité, tout en permettant aux gens de célébrer et de voir célébrer autour d'eux.
Cependant, le président Donald Trump n'a pas encore concédé sa défaite et envisage d'organiser un événement concurrent pour lancer sa campagne présidentielle pour 2024.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président américain Donald Trump a obtenu des accords de normalisation diplomatique entre Israël et les pays arabes au cours de son mandat, mais il quitte ses fonctions dans un contexte de tensions renouvelées avec l'Iran. La correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, fait le point sur le bilan de la politique du président Trump pour le Moyen-Orient et les défis qui attendent l'administration du président élu Joe Biden. Le récit est signé Jacques Aristide.
Les accords d'Abraham normalisant les relations d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, signés en septembre dernier, sont considérés comme la réalisation la plus importante du président Donald Trump au plan de politique étrangère.
Après des décennies de divisions et de conflits, nous marquons l'aube d'un nouveau Moyen-Orient.
Les accords ont modifié la perception régionale datant de plusieurs décennies selon laquelle la paix arabo-israélienne ne peut être réalisée sans aborder la question de la création d'un État palestinien. Ils reflètent également l'amélioration des relations d'Israël avec ses voisins arabes face à l'Iran, un ennemi commun affaibli par la campagne de sanctions maximale de Trump. Le président élu Joe Biden s'est dit en faveur que davantage de pays reconnaissent Israël avec une mise en garde, toutefois pour ce qui est du sort des Palestiniens.
Je crois également qu'Israël doit être prêt à œuvrer pour une véritable solution à deux États.
Biden a promis de revenir à l'accord sur le nucléaire iranien que Trump a quitté en 2018. L'accord suspend le programme nucléaire de Téhéran en échange d'un allègement des sanctions. Le plan pourrait être compliqué par le récent assassinat du plus grand scientifique nucléaire iranien. La Maison-Blanche n'a pas condamné l'attaque que Téhéran attribue à Israël. Alex Vatanka est le directeur du programme Iran au Middle East Institute.
Je soupçonne que le régime maintiendra la retenue comme il l'a fait après l'assassinat de Qassem Soleimani et attendra l'administration Biden pour voir s'il peut conclure une sorte d'accord. Bien que ce soit un processus très épineux en soi, mais le fait est que l'Iran ne peut pas se permettre un conflit militaire à ce stade avec les États-Unis ou avec Israël ou avec qui que ce soit d'autre d'ailleurs.
Or for that matter, anybody else.
Alors que Trump préfère les relations bilatérales souvent basées sur des liens personnels avec des dirigeants étrangers, Biden devrait adopter une approche plus multilatérale pour engager ses alliés. Néanmoins, les analystes ne s'attendent pas à un changement fondamental de la politique américaine dans la région. Au cours de ces premiers mois, Biden va probablement se focaliser sur la riposte américaine à la pandémie de Covid-19, y compris la distribution de vaccins, déléguant une grande partie de la politique étrangère à son choix au poste de secrétaire d'État. Anthony Blinken a travaillé avec Biden pendant près de 20 ans, y compris sur les politiques au Moyen-Orient, avec des résultats mitigés en Égypte, Irak, Syrie et en Libye.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Lunamina Gahima et Michel Joseph. À la présentation, Eric Manila Kiza. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.